Arthur Noudin, qui connaissait bien Arthur Tatossian. Pour vous présenter plus précisément cette demi-journée et la phénoménologie avec le titre qu'on a choisi, Le quotidien, l'évidence perdue de la psychiatrie.
Oui, c'est ça. Je me demandais comment introduire la phénoménologie auprès d'internes qui ne la connaissent pas, puis je sais aussi que vous venez à Marseille et que Marseille a une réputation un petit peu sulfureuse pour bien de raisons, mais aussi en psychiatrie à cause de la phénoménologie. Au fond, tout le monde se demande ce que c'est et personne ne le sait. Alors rassurez-vous, les Marseillais non plus. Donc je me suis dit qu'il fallait peut-être saisir cette occasion pour vous présenter ce que c'était qu'un phénoménologue. Et pour que vous puissiez y réfléchir en vous amusant un petit peu, je me suis dit qu'il fallait faire une typologie des phénoménologues, c'est-à-dire une manière de les classer pour pouvoir un petit peu comprendre quel type de personne c'était. Alors je parle des phénoménologues psychiatres, mais aussi des phénoménologues psychologues, ainsi de suite. Et le mot « ainsi de suite », d'ailleurs, est un mot qu'aimait bien Arthur Tatossian, qui l'utilisait tout le temps, avec une autre expression, « je veux dire ».« Ah, vous savez, je veux dire », etc. Bon, voilà, c'est ce qu'on garde de lui quand on l'a connu, plus un certain nombre de théories qui nous inspirent toujours. Et donc, il y a plusieurs variétés de phénoménologues, au fond, qui ont des traits assez typiques. Le plus connu et le plus moqué par ses collègues, c'est le phénoménologue à Jabot. Parce que le phénoménologue à Jabot, c'est quelqu'un qui est en fait un psychiatre, certes, mais très romantique. En général, il aime Goethe, il a lu Goethe, il aime la mélancolie, et aux yeux des autres, il passe pour un littéraire un peu farfelu, un peu nostalgique, etc. Et on l'écoute volontiers quand on a envie de passer un moment, mais on ne le prend pas au sérieux. À côté de ça, il y a des phénoménologues à perfecto. Alors, ceux-là, on les prend un petit peu plus au sérieux, on en a un petit peu peur, c'est comme des blousons noirs. Ils aiment bien descendre à la cave, je parle de la cave de l'édifice, de la psychiatrie, et voir comment ça tient ensemble, comment ça se construit à partir des profondeurs. Ce sont en un certain sens, un peu comme Freud, des psychologues des profondeurs, mais ils ne croient pas toujours à l'inconscient, etc. Ce sont des gens qui passent un petit peu pour des gens qui croient à rien. Et surtout, ceux-là s'intéressent autant à la schizophrénie qu'à la mélancolie. Et à dire vrai, ils sont un peu moins moqués, mais souvent un petit peu plus haïs par leurs collègues. Grosso modo, on dit d'eux qu'ils aiment Sartre et Juliette Gréco, ce sont des existentialistes, quoi. Puis ils aiment le rock, accessoirement. Ils ont mauvais genre, ceux-là. Puis, on peut essayer aussi de les classer selon leur degré d'activité. Et là, il faut bien reconnaître qu'il y a deux variétés de phénoménologues. Des phénoménologues fossiles et des phénoménologues en activité. Le phénoménologue fossile, en fait, c'est un psychiatre. C'est tout. C'est un psychiatre, c'est tout, c'est-à-dire, en fait, c'est quelqu'un qui se sert de la phénoménologie, sans doute, pour affirmer sa position de psychiatre. Et c'est, en fait, le pire des psychiatres, tels qu'ils sont décrits par les antipsychiatres, d'une certaine manière. Au fond, c'est ceux qui donnent raison à l'antipsychiatrie, quand elle voit dans la psychiatrie qu'une forme de sédimentation du vivant. Et puis les phénoménologues en activité, alors j'espère que nous allons montrer au cours de cette table ronde que nous sommes des phénoménologues en activité, mais c'est pas sûr, parce que les phénoménologues en activité, voilà ce qu'ils font, ils s'approchent le plus possible, le plus près possible, de la chose clinique elle-même. Le mot de Husserl, qui transcende finalement l'existence scientifique de tous les phénoménologues, c'est le retour à la chose elle-même. On essaie d'être le plus près de la chose clinique, pour essayer de comprendre comment ça jaillit, comment la clinique naît. Et donc, c'est un peu comme des vulcanologues, on va le plus près de la bouche du volcan en activité, on regarde ce qui se passe, au risque de se brûler un petit peu, on joue avec le feu. Là aussi, c'est peut-être pour ça qu'il y a un certain mauvais genre des phénoménologues. Et en s'approchant de la source, en regardant comment ça jaillit, on s'aperçoit qu'en fait, le délire, la clinique phénoménologique, la clinique psychiatrique en général, c'est quelque chose de construit, c'est quelque chose qui prend son sens en se construisant dans l'histoire, mais aussi dans le moment même de la clinique, dans l'intersubjectivité. Et on s'aperçoit à ce moment-là que c'est difficile de garder cette position, parce que c'est un effort. Et cet effort, c'est en fait un effort lié à une attitude philosophique que la phénoménologie appelle la réduction, qui est en fait une tentative pour essayer de mettre de côté momentanément toutes les théories, simplement pour voir comment ça jaillit. En ce sens-là, on se rapproche tout autant des anthropologues que des vulcanologues, d'une certaine manière. Et donc le phénoménologue en activité, en vérité, n'est pas tout le temps en activité. C'est comme les volcans. Il fonctionne par intermittence. Il y a des moments où il est un peu fossile et puis il y a des moments où il est un peu en activité. Et c'est cette typologie très brève vous montre aussi en fait combien on pourrait décrire des approches phénoménologiques comme autant de mondes possibles. Selon les conceptions nosologiques, par exemple, on voit que s'affrontent, ce sont plus souvent les romantiques qui l'utilisent, une typologie descriptive, et là, ce sont plutôt les blousons noirs, une épistémologie critique. Alors, c'est caricatural, ce que je vous ai fait. Il ne faut pas prendre ça à la lettre, ça ne sert à rien, c'est une façon de présenter les choses. Mais il faut opposer une typologie descriptive en phénoménologie et une épistémologie critique. Sur quelle base ? Par exemple, la phénoménologie, une fois que vous avez suspendu les théories, vous pouvez vous en servir, comme faisait Jaspers le premier, mais comme fera aussi Minkowski, ou comme fera Krauss parmi nos contemporains. On va dans une description fine des symptômes pour essayer d'atteindre en fait le phénomène, c'est-à-dire ce qui apparaît comme étant la clinique pure, et malgré tout, on reste nostalgique d'un certain cadre nosographique. C'est en fait une approche du diagnostic, vous entendrez souvent parler du diagnostic dimensionnel par opposition au diagnostic catégoriel, bien, c'est une approche dimensionnelle du diagnostic qui est plus psychiatrique que philosophique quand même, parce que c'est quand même une approche du diagnostic. Et au fond, ces phénoménologues-là ne remettent pas en cause les grandes classifications, ou en tout cas, elles essaient de leur donner un petit peu une âme et de les approfondir. Mais au fond, Kraepelin n'est pas si loin que ça. Ou en tout cas, ce que nous avons hérité de Kraepelin, c'est-à-dire une typologie qui nous permet de décrire éventuellement des catégories, mais qui, si on la prend à la lettre, est une forme de nosologie, c'est-à-dire une science des maladies, ben, ça, c'est une typologie descriptive, et la phénoménologie permet d'affiner notre sens clinique en ce sens-là. Ce qui est déjà pas mal, finalement, parce que la phénoménologie, si elle ne devait servir qu'à ça, ça nous permettrait aussi, à ce moment-là, peut-être de modifier un petit peu notre façon de faire des cours, notre façon d'apprendre la clinique, notre façon de percevoir les malades, et notre façon aussi d'expliquer les symptômes aux malades et d'entendre les explications qu'ils nous donnent eux-mêmes comme des explications d'essence, justement. L'épistémologie critique, ça correspond un petit peu plus à ceux qui vont dans la cave, parce que c'est conçu comme une généalogie. Au fond, on va gratter de plus en plus au fond, etc. Et puis on voit des différentes couches, d'une certaine manière, du savoir qui se superposent. On est obligé de passer par l'histoire. Et donc, finalement, sans le savoir souvent, mais la plupart du temps en le sachant, comme l'Antéri Laura, dont vous avez certainement entendu parler, ou Tatossian, qui était un peu son alter ego en France, ben, on se sert de l'histoire pour faire valoir les essences cliniques, les différences qui existent entre les maladies. On essaie de faire des comparaisons. Ça se rapproche d'une méthode husserlienne, là aussi, qui est la méthode des variations imaginaires. C'est-à-dire, une fois qu'on a mis en doute, qu'on a mis de côté, plutôt, la thèse de la réalité, ce qui nous permet de croire dur comme fer à des diagnostics, ce qui est un peu con, une fois qu'on a mis ça en doute, qu'on a mis ça de côté, on peut faire varier les diagnostics pour voir qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui caractérise tel ou... Par exemple, vous pouvez vous demander à ce moment-là, est-ce qu'un paranoïaque sans autrui, ça peut exister ? Vous y réfléchissez un petit peu et vous apercevez que non, et vous trouvez un trait d'essence du paranoïaque. Ben, cette méthode-là, qui est quelque part un retour sur l'histoire et en même temps un retour sur la clinique, c'est une méthode généalogique, c'était celle de l'Antéri Laura qui fonctionne par opposition. Et ce que l'on fait à ce moment-là, c'est qu'on est à la recherche d'un noyau psychopathologique. Et à la recherche d'un noyau psychopathologique, ça veut dire qu'on va chercher des invariants en faisant varier tout ça. Et ces invariants cliniques vont nous permettre, en fait, de déconstruire le savoir psychiatrique. C'est pour ça qu'on va à la cave. On va à la cave pour montrer comment ça tient en déconstruisant le savoir psychiatrique. Et ça se rapproche quand même déjà un petit peu plus de ce que nous enseigne la philosophie des sciences. Ensuite, la deuxième typologie que je vous avais proposée, c'est en fait une typologie selon l'activité du phénoménologue. Il est évident que dans notre clinique, telle que nous la connaissons aujourd'hui, nous avons hérité d'un certain nombre de conceptions phénoménologiques qui étaient à l'origine des conceptions vraiment phénoménologiques. Par exemple, dans le DSM, que vous connaissez tous, qui est catégoriel, etc., dont il apparaît finalement assez vain de le critiquer aujourd'hui de façon primaire. Mais en tout cas, dans ce DSM, on retrouve en fait la critériologie de Schneider. Et Schneider, c'est un psychopathologue allemand qui, lui, faisait référence aussi à Husserl, qui faisait référence également à une connaissance de la philosophie phénoménologique et qui permettait de comprendre un petit peu ce que ça voulait dire être schizophrène, entendre des voix, etc., qui avait compris par exemple que certains critères des voix, entendus en deuxième ou en troisième personne, des commentaires des actes, etc., tout ça pouvait avoir une certaine généralisation qui s'appelait les troubles de la miénité, les troubles de l'appropriation qui nous permettent, cette appropriation de notre pensée qui nous permet d'être soi-même. Eh bien, ces troubles de la miénité décrits par Schneider sous forme de critères cliniques sont repris dans le DSM sans citer Schneider, parce que le drame de ces catégories actuelles, de ces classifications nosographiques, pas nosologiques, c'est de déterminer des items étanches chez les uns parmi les autres, et surtout d'oublier l'histoire. Elles sont anhistoriques. Et le fait d'être anhistorique fait qu'on oublie aussi l'auteur. C'est-à-dire qu'on va citer les critères de Schneider, mais on ne va peut-être pas citer Schneider. Et une fois qu'on a oublié l'auteur, qu'on a oublié comment les choses sont nées, parce qu'elles sont toujours nées quelque part en même temps de plusieurs auteurs, de la rencontre de plusieurs auteurs dans le récit, et en même temps de la rencontre de la clinique. Il y a cette confrontation. Mais si on oublie ça, on perd tout. Et donc, cette anhistoricité des catégories nosographiques actuelles a fait qu'on a perdu quelque chose et qu'il est important de le retrouver aujourd'hui. C'est important pour vous. Nous, on compte sur vous pour que vous soyez moins bêtes que nous et que vous reveniez à l'histoire. Et puis, dernier chapitre de ma critériologie personnelle des phénoménologues, il y a la Daseinsanalyse. Et la Daseinsanalyse, c'est celle qui a été inventée par Binswanger, par Boss, par d'autres auteurs qui ont poursuivi ça, par Tellenbach, par Blankenburg. Et je pense que François Degan va vous en donner une illustration exemplaire en vous parlant du cas Suzanne Urban tout à l'heure, qui est le cas exemplaire de la Daseinsanalyse. Ben, la Daseinsanalyse, c'est-à-dire l'étude du Dasein, j'espère que tout à l'heure vous en saurez un tout petit peu plus sur ce que ça veut dire. Pour l'instant, mettez-le entre parenthèses. Sachez qu'il faut pour l'écrire un D majuscule parce que c'est de l'allemand et c'est tout. Et comprenez que la Daseinsanalyse, c'est-à-dire l'analyse existentielle, la phénoménologie psychiatrique, pour le dire plus clairement, ça comprend la clinique dans sa dimension existentielle pure. C'est ça son intérêt. C'est son intérêt thérapeutique, c'est son intérêt clinique. Ça va vous permettre de comprendre non pas des diagnostics, non pas des traitements, non pas simplement des actions thérapeutiques, mais surtout comment ces actions thérapeutiques, ces actions diagnostiques se fondent sur une compréhension intuitive, mais aussi qui peut être pensée avec les termes de la philosophie, ce que nous donne la langue philosophique, une compréhension intuitive de l'existence d'autrui. Et finalement, en comprenant l'existence, on comprend quelque chose qui nous permet d'entretenir à la fois des rapports directs avec la clinique psychiatrique et avec la philosophie. Et ce qui caractérise ces phénoménologues vivants en activité, c'est qu'ils continuent se fonder sur des liens directs avec des philosophes, avec la pensée de philosophes, ils écrivent de la philosophie et pas que de la psychiatrie, ils ont des relations de pensée avec les philosophes. Et c'est ça, un phénoménologue en activité. C'est quelqu'un qui ne va pas passer son temps à citer Heidegger comme on le citait dans les années 50. C'est quelqu'un qui va, au contraire, essayer de penser. C'est ce qu'on aurait fait aujourd'hui si on avait eu sans doute aussi la chance de pouvoir recevoir Bruce Bégou, parce que vous verrez que beaucoup d'entre nous s'en inspirent, ou en tout cas vont chercher chez lui des concepts très actuels quant à la vie quotidienne. Et je crois que Bernard Pachou parlera aussi de cette pensée de Bruce Bégou à propos du quotidien. Et cette méthode, donc, qui est ni catégorielle, ni causaliste, on se fout des causes dans la phénoménologie psychiatrique. Ça ne nous intéresse pas de prime abord. Ce qui nous importe pour nous, c'est comprendre, c'est pas expliquer. Et on se rapproche, on se rapporte à des philosophes, on les convoque d'une certaine manière. Husserl, Heidegger, Schütz. Husserl, c'est celui qui a décrit la réduction, qu'on appelle aussi époquée. Heidegger, il a parlé du Dasein. C'est pour ça qu'on parle de Daseinsanalyse en citant Heidegger. Et Binswanger qui a repris ce mot. Schütz, il est un petit peu moins connu, mais c'est celui qui inspire, par exemple, énormément Bruce Bégou. C'est en fait quelqu'un qui est à l'origine de tout ce courant de la sociologie subjective. Goffman aussi. Ce sont des gens qui n'ont pas pensé la sociologie comme des marxistes qui passent leur temps à dire, finalement, si on n'accède pas à l'éducation, c'est parce qu'on a été pauvre quand on était petit, ainsi de suite. Ils ne s'en tiennent pas à ce type de motivation purement économique. Ils s'en tiennent à quelque chose, au contraire, qui ne peut pas être simplement rationalisé par des mathématiques. Ils s'en tiennent à la subjectivité, à la façon dont les gens vivent ces motivations et dont ils s'investissent dans la vie quotidienne pour tenir des rôles, etc. Bon, je n'insiste pas. Donc ça se fonde, toutes ces phénoménologies-là, sur le croisement des expériences subjectives. Et donc vous verrez que, quant à l'étude du quotidien, la phénoménologie vous apporte une langue pour rendre compte de l'expérience subjective d'autrui, mais aussi de la vôtre, et aussi de la façon dont vos expériences subjectives s'entrecroisent, se multiplient, se développent dans un monde commun, qui est le monde de la vie quotidienne. Les grandes figures de cette pensée phénoménologique-là, c'est Binswanger, Tellenbach ou Blankenburg, que vous entendrez sans doute citer souvent ce matin. Et pour parler de Blankenburg, regardez, je vous parlais de la schizophrénie. Les blousons noirs de la phénoménologie adorent quelque part la schizophrénie, parce que c'est dans la schizophrénie qu'on va trouver les questions les plus importantes par rapport à ce que ça signifie la vie quotidienne. Eh bien, pour comprendre ce que c'est que la schizophrénie et pour comprendre un petit peu ce que c'est pour nous la vie quotidienne, il faut accepter un moment de perdre l'évidence naturelle, de perdre ce qui constitue ce qui va de soi dans la vie quotidienne. Ce qui fait qu'on a l'impression tout le temps de comprendre que, par exemple, on ne se pose pas des questions pourquoi on est là ensemble, pourquoi on est là ensemble, vous assis sur des fauteuils, nous sur une estrade, pourquoi je parle, pourquoi vous écoutez. On ne se pose pas ces questions-là parce que c'est évident, ça va de soi. Eh bien, ce que nous demandent les schizophrènes pour les comprendre, c'est de perdre cette évidence-là, et ce que demande Blankenburg aussi. Et on entre à ce moment-là dans un autre domaine, un domaine qui est beaucoup plus axiologique, qui est beaucoup plus fondé sur des valeurs, qui est fondé sur des questionnements sur l'existence. Et regardez à ce moment-là comment ces gens sont habités. Quand vous comparez une photographie de Blankenburg en train de parler de l'existence et que vous regardez une toile qui représente Dostoïevski, vous voyez qu'il y a un portrait, qu'il y a quelque chose de commun dans ces deux portraits, quelque chose de commun dans leur regard, qui est un regard qui n'est pas simplement tourné sur le monde comme monde de la vie quotidienne, comme monde pratique, il est aussi tourné vers l'intérieur. Et c'est une conversion du regard qui présuppose une compréhension de l'existence. Alors, pour conclure mon introduction, qui était certainement à la fois trop brève et trop longue, parce que plus je parle, plus j'empiète sur le temps des autres, ce qui n'était pas mon but, et moins je parle, moins j'en dis, et peut-être que ça vaudrait mieux. Donc, on va vous parler aujourd'hui beaucoup de l'apport de la schizophrénie à la phénoménologie, dans la tradition de Blankenburg, dans la tradition de Tatossian, et j'espère aussi dans une tradition qu'on essaie de maintenir à Marseille, parce que, mais aussi à Nice, à dire vrai, en fait, il y a deux foyers en France de la phénoménologie, quelque part universitaire, c'est Nice et Marseille, parce qu'on est tous des élèves de Tatossian. Et donc, le casus anurban dont va vous parler tout à l'heure François de Gand est un cas célèbre de Binswanger, et il y a déjà des questionnements sur la vie quotidienne, sur la quotidienneté de la vie dans ce cas, et sur la façon dont notre existence, quelque part, telle qu'elle se voit dans le délire, se voyait déjà aussi dans ce qui se passait avant le délire. Et de quelle façon on peut essayer de déterminer une continuité, au moins thématique, mais peut-être aussi une continuité qu'on aurait appelée dans les années 70 ou 80, une continuité de structure, dans la façon dont le thème prend forme, est prescrit à la personne, dont il prend son autonomie, et où, au fond, un des traits d'essence de la schizophrénie, c'est d'être une forme de terreur, d'être une forme de terreur dans le monde familier. Il y a une atmosphérisation de la terreur, et c'est une question posée à la vie quotidienne en tant que telle. On a ensuite Blankenburg. Blankenburg, il y a un cas célèbre, c'est le cas Anne. Qu'on appelle aussi la perte de l'évidence naturelle. Mais là, c'est une jeune femme qui raconte, c'est ça, sa schizophrénie, c'est de raconter ça, un peu comme Louis Lambert de Balzac, d'ailleurs. Elle raconte comment elle n'arrive pas à accéder à la vie quotidienne comme les autres, parce qu'elle n'arrive pas à comprendre ce qui, pour les autres, va de soi, c'est-à-dire ce qui est évident naturellement, le sens commun. Et donc, c'est une schizophrénie qui a très peu de symptômes, on dit post-symptomatique, et qu'elle montre simplement combien ce n'est pas un problème purement cognitif, c'est un problème de relation au sens commun, à ce qui est partagé par les autres, la façon dont on se tient debout devant autrui et dont on constitue quelque part le sens de la vie quotidienne au travers du sens commun, et la façon dont ça manque aux schizophrènes, dont elle est exemplaire d'une certaine manière. Les schizophrènes ont tendance, dans ce sens-là, à trop réfléchir, à construire beaucoup de théories à propos de leurs déficits, à propos de leurs défaillances. C'est pas sûr que ce soit un déficit comme les autres. C'est ce que dira Blankenburg, une défaillance transcendantale. Peut-être que vous comprendrez à la fin de cette matinée ce que ça veut dire. Et cette défaillance transcendantale, elle se traduit par une hyperréflexivité, et je suppose que Bernard Pachou en parlera. Tout ça nous conduit sans doute à une attitude, et je conclurai là-dessus, qui est propre à la phénoménologie moderne dans ses rapports avec les neurosciences. Il y a un neuroscientifique qui s'appelait Francisco Varela qui a parlé de neurophénoménologie. En fait, cette idée était d'essayer de contraindre mutuellement l'expérience scientifique, les données de l'expérience scientifique, et puis les données de l'expérience subjective, intuitive, et d'essayer de les contraindre pour voir qu'est-ce qui restait, qu'est-ce qui pouvait rester de commun, parce que ça ferait avancer à la fois la compréhension du sujet et la compréhension scientifique du sujet dans la vie quotidienne, l'approche cognitiviste, par exemple. Mais Nicolas Franck nous exposera tout à l'heure l'approche purement cognitiviste, et je crois que c'est certainement un des intérêts de la journée de ce matin, c'est de confronter un point de vue cognitiviste, neuroscientifique, à un point de vue phénoménologique pur. Et on verra que Bruce Bégou, s'il avait été là, aurait sans doute donné quelques pistes en s'interrogeant sur ce qui organise le monde de la vie quotidienne, dans sa conséquence, dans sa concordance, dans sa régularité, dans le fait qu'il est une, je reprends des mots qui sont les siens, qu'il y a une force formatrice du sens commun, et qu'au fond, on devient chacun nous-mêmes un sujet dans le sens commun, dans l'interactivité, au travers de ce que nous nous approprions du sens commun et de la façon dont ça nous forme. Et on s'aperçoit très vite à ce moment-là que le monde de la vie quotidienne dont on va vous parler, il vise en fait uniquement sa perpétuation d'une certaine manière. Il vise sa perpétuation dans le temps. Il passe son temps à oublier, à mettre de côté le fait qu'on est mortel, le fait que, au fond, tout ça n'est peut-être pas vraiment fondé, qu'après tout, c'est fondé dans des récits, et que ce sont peut-être les récits qui nous tiennent ensemble. Schütz disait que le monde de la vie était construit sur pilotis. Eh bien, c'est un peu ce que nous ne ressentons pas, parce que nous ne voulons pas le voir, parce que le construit, la façon dont le monde de la vie quotidienne est construit, atteint son but lorsqu'il se fait passer pour du donné, ce que nous tenons pour acquis. On va vous parler de ça, et ça s'appelle la naturalité du quotidien. La vie quotidienne, au sens de ce qui va de soi, doit être questionnée, et le meilleur moyen pour le questionner, et donc aussi pour comprendre la schizophrénie, c'est d'interroger les philosophes, c'est de rencontrer des philosophes, c'est de nous questionner mutuellement sur cette non-évidence, alors que nous vivons dans l'évidence, sur le fait que cette non-évidence est peut-être première en soi et que nous ne voulons jamais le voir, sur le fait que nous avons toujours cette inquiétude de nous tenir debout lorsque nous rencontrons autrui, mais ça aussi nous ne voulons pas le voir parce que nous avons des tas de récits qui nous permettent de tenir ensemble, et qu'en fait, les schizophrènes, quelque part dans la cité, il faut se poser aussi la question de qu'est-ce que ça veut dire être schizophrène en tant que citoyen, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire avoir une schizophrénie dans la vie citoyenne aujourd'hui, ben, le schizophrène dans la cité, il continue à avoir cette fonction de l'étranger qui nous permet de nous questionner dans la vie quotidienne. Heureusement qu'il y a des schizophrènes, sinon nous ne serions pas humains. Je vous remercie.